Vous allez entendre, dans la série Israël et l'Église, un message de William Branham intitulé Israël à Kadesh Barnéa, prêché le 28 mars 1953 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique. Dans le livre des Nombres vers lequel nous sommes dirigés hier soir, nous avons quatre étapes, trois étapes du voyage du pèlerinage des enfants d'Israël à examiner cette semaine, typifiant comme nous croyons en typologie, typifiant la nouvelle Église par l'ancienne, eux dans le naturel, nous dans le spirituel. Le Seigneur nous a rencontrés. Nous sommes retournés à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et puis à l'esclavage en Égypte. Alors hier soir, le Seigneur nous a bénis et nous les avons fait sortir, les amenant jusqu'à la mer Rouge, jusqu'au rocher frappé, se tenant là devant Dieu. Maintenant ce soir, nous les amenons à Kadesh Barnéa, jusqu'au siège de jugement, devant l'autel des reins, ou le serpent des reins plutôt. Demain soir, le Seigneur voulant, nous les retrouverons dans la patrie. Oh là là, sortez, nous allons traverser le Jourdain demain, le Seigneur voulant. Josué leur dit, « Rassemblez-vous maintenant, nous allons passer de l'autre côté. » Maintenant, juste avant, vous savez, il n'y a pas un seul d'entre nous, ni un prédicateur qui n'ait Dieu dans son cœur, et qui, lorsqu'il regarde les Écritures, n'ait pas un peu peur. Est-ce que je fais les choses par moi-même, ou bien le Saint-Esprit est-il là pour me conduire? Souvenez-vous que la semence qui a été semée, sans aucun doute, elle lèvera quelque part. Et nous voulons que cela soit la semence de Dieu toute réelle et non adultérée, et qui soit semée dans le cœur des gens, car un de ces jours, je devrais me tenir au jugement et rendre compte de ce que j'ai dit et fait dans cette vie avec vous. Si je vous égare, alors je serai considéré comme un trompeur, et certainement je ne veux pas faire une telle chose, pas volontairement. Juste avant que nous prions sur la parole, vous savez, la Bible dit que lorsque Jean le vit dans le livre de l'Apocalypse, il dit qu'il vit le livre, et il était scellé sur le dos, le devant et l'arrière, et aucun homme dans le ciel et aucun homme sur la terre, ni aucun homme sous la terre n'était digne de prendre le livre, ni même de le regarder. Et alors un agneau qui avait été immolé depuis la fondation du monde vint et l'a pris de la main de celui qui était assis sur le trône. Et les anciens crièrent, « Tu es digne !» Maintenant, puisse cet agneau ce soir venir et ouvrir la parole. Nous pouvons parcourir les pages, mais nous avons besoin de l'agneau de Dieu pour ouvrir la parole. Inclinons nos têtes. Frère Junior, conduisez-nous dans un mot de prière, si vous le voulez bien, pendant que... priez que Dieu nous ouvre sa parole, si vous voulez. Frère Junior, prie, note de l'éditeur. Très bien, le Seigneur vous bénisse maintenant. Allons pour commencer ce soir dans Nombre, le chapitre 13. Nous commençons là et alors nous continuerons. Je vais simplement essayer de ne pas faire comme j'ai fait, de vous garder bien longtemps. Mais cette fois, je vous laisserai partir le plus tôt possible. Dès que le Saint-Esprit dira que c'est assez, alors nous nous en irons. Demain matin, maintenant rappelez-vous, l'école du dimanche à 9h30. Et vers 4 ou vers 10 heures, nous répondrons aux questions. Apportez vos questions, apportez-les ce soir. Après le service, donnez-les à l'un ou l'autre des anciens, afin que je puisse les recevoir ou de l'une ou de l'autre manière pour les questions de demain. J'en ai un bon nombre. Demain soir, ce sera la traversée du Jourdain. Maintenant, nous avons eu trois étapes. Il y a trois étapes du voyage. Israël en Égypte, Israël dans le désert, Israël dans la patrie, en Palestine, promise par Dieu des centaines d'années auparavant. Très bien. Nous trouvons alors, en reprenant l'Église pour un petit aperçu, nous avons découvert que Dieu promit à Abraham qu'il le sauverait. Il lui donna une promesse inconditionnelle, une alliance inconditionnelle qu'il le sauverait, lui et sa postérité. Pas toute sa postérité, mais sa postérité promise, Isaac. Abraham avait 11 fils, vous savez, mais un seul d'entre eux était le fils promis à travers Isaac. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans Romains, le 9e chapitre, que tous ceux d'Israël ne sont pas Israël, mais à travers Isaac sera nommé pour toi une postérité. Maintenant, alors Dieu, à travers Isaac, représente Christ. Nous remarquons, Christ était en Abraham, Christ était en Isaac, Christ était en Jacob, Christ était en Joseph, Christ était en Moïse. Christ dans tout l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, tout le... Si nous avions le temps, ici il y a 7 ans, la semaine passée, ces derniers mois nous avons pris le livre de l'Exode d'un bout à l'autre, en prenant des types partout, même les eaux de séparation, la génisse rousse, elle ne pouvait pas être brune, elle devait être rousse, aucun défaut en elle, elle devait être brûlée, et alors cela aboutit aux eaux de séparation, et cela devait asperger le peuple après qu'ils eussent péché et fussent sortis du camp. Comment l'hysope et le bois de cèdre, et tout cela mis ensemble, comme le bois du tabernacle, comment l'autel d'airain, la cuve, le pain de proposition, chaque chose était dirigée vers Christ. Et en lui, nous sommes complets en Jésus-Christ. Maintenant, combien notre leçon de ce soir est merveilleuse. Comment Dieu a donné Israël comme un type, une ombre préalable de ce qui serait. Maintenant, nous découvrons donc que même après 400 ans, Dieu avait promis à Abraham que sa postérité séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans, mais en sortirait par sa puissante main. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. Dieu fait que sa parole soit toujours vraie. Les vieilles roues prophétiques et les dents de la roue dentée de Dieu tournent lentement, mais sûrement. Elles arrivent droit à leur place. C'est la raison pour laquelle ce soir, en étudiant cet exode de l'Église, je crois que nous sommes de nouveau en exode. Je crois que Moïse, étant un parfait type de l'organisation de l'Église, qui a manqué Dieu, représente l'Église dans ses échecs envers Dieu. Et Josué, le nouveau conducteur, et Josué fit traverser Israël de l'autre côté jusqu'en terre promise. Parfait, si nous y prêtons attention, comment Dieu agit là-bas en ces jours-là. Tout allait bien, ils pensaient qu'ils étaient installés pour toujours. Mais lorsque le temps de la promesse approcha, vint un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Les choses commencèrent à aller différemment, et c'était le temps pour une délivrance. Le peuple commença à gémir et pleurer, et alors Dieu descendit les délivrer. Comme c'est parfait. Et alors il envoya un homme. Un enfant était né, un enfant particulier, et il fut élevé d'une façon particulière, mais Dieu avait sa main sur lui. Moïse, comment il fut caché dans les joncs, né dans un temps de persécution, tout comme Christ, né un enfant juste à propos, tout comme Christ, et il était né dans ce monde pour être un libérateur, tout comme Christ. Et oh, comment il, son œuvre, comment il était un législateur, montant sur les montagnes où il resta 40 jours, puis en redescendit avec la loi, et lui, son grand défaut était un caractère colérique, et il brisa les commandements. Il remonta, montrant que cette prêtrise devait mourir, disparaître. Tout comme Jésus alla dans le désert 40 jours, et lorsqu'il en sortit, lui, Jésus, Satan le rencontra juste sur son point faible, comme il le fit pour Moïse. Le point faible de Jésus était la faim. Il dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient changées en pain. » Jésus dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Il savait qu'il n'avait pas rencontré Moïse alors. Il savait qu'il se trouvait en face de quelque chose de plus que Moïse, car Jésus connaissait la parole. Et s'il y a quelque chose que l'Église devrait savoir aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Comment rassembler ces éléments et l'appliquer à votre cœur. Car ceci est le jour, frère, et vous en serez témoins. C'est un jour de isme. J'ai étudié la Genèse maintenant depuis 2 ans, ce qui concerne la Genèse. C'est le commencement, le départ, le chapitre des semences, et vous remarquerez que toutes ces sectes de nos jours ont leur commencement dans la Genèse. Ils ont eu leur début là-bas, dans la Genèse, et se terminent ici, dans les derniers jours. Par exemple, beaucoup d'entre eux comme, comment cette religion formelle commence en Caïn? Comment cela continue à se développer, continué par les fils de Noé, de Cam, il eut Nimrod. Nimrod construisit la tour de Babel. Babel continue jusqu'au temps du roi Nebuchadnezzar et jusqu'à l'Apocalypse, Babylone. Comment cette petite semence commença il y a longtemps à l'est des portes d'Éden. continuant et finissant, toutes les sortes de sectes et autres commencèrent là-bas, allant jusqu'à leur fin. Maintenant, il n'en tient qu'à nous de regarder. Attention, soyez bien établis sur la parole. Beaucoup de choses non scripturaires arrivent aujourd'hui. Regardons l'Écriture. Soyons sûrs que là où nous sommes, nous avons raison. C'est ce que nous avons essayé d'enseigner cette semaine. La plus grande chose que je puisse trouver contre l'Église aujourd'hui, c'est la peur. Tout le monde a une peur terrible de quelque chose. De quoi avez-vous peur? Si un homme est né de nouveau, il devrait être heureux, libre de soucis. Juste comme ces garçons ont chanté là, et le frère qui a témoigné là-bas, simplement libre. Il n'y a rien qui puisse vous faire du mal, ni les choses présentes, ni les choses futures. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Dieu l'a promis. Il a appelé par élection. Il a mis son Église en ordre. Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Vous n'êtes pas venu à Dieu parce que c'est vous qui le vouliez. Vous êtes venu parce que Christ vous a appelé. Dieu vous a appelé. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors, je lui donnerai la vie éternelle. Pas seulement qui dure une semaine d'un réveil à un autre, mais qui dure toujours la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oh là là! Si cela n'enlève pas le vent des voiles de Satan, je ne sais pas ce qu'il le fera. Vous dites, comment le savez-vous? Je dis, Jésus l'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Jésus l'a dit, cela règle la question. S'il l'a dit, je le crois. Il dit en Jean 5, 24, c'est ma marotte, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Vous dites, c'est vraiment facile, frère Branham. Aucun homme ne peut croire que Jésus est le Christ dans son cœur et être le même homme qu'il était avant. Il ne le peut pas, non monsieur. Comme j'ai dit hier soir, boire, fumer, jouer, toutes ces choses, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas un péché de jouer, ça n'en est pas. Jouer n'est pas un péché, plutôt fumer n'est pas péché, boire n'est pas péché, jurer n'est pas péché. C'est un attribut du péché. Parce que vous êtes pécheur, c'est la raison pour laquelle vous faites cela. Si vous étiez un chrétien, vous ne le feriez pas. Il dit, celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui, pas en lui. Ainsi maintenant vous êtes soit un... Vous ne pourrez jamais voir un demi-chrétien. J'ai demandé à quelqu'un l'autre soir, je lui ai dit, « Êtes-vous chrétien, mon frère ?» Il dit, « Je suis un assez bon chrétien. » J'ai dit, « Non, vous ne l'êtes pas. Il n'existe pas d'assez bon chrétien. Combien ont déjà vu un homme saoul et sobre à la fois ? Personne. Combien ont déjà vu un oiseau noir-blanc ? Personne. C'est soit vous n'avez jamais vu un pécheur qui soit en même temps un saint. Soit vous êtes né de nouveau, soit vous n'êtes pas né de nouveau. » Vous êtes d'un côté de la barrière ou de l'autre. Et maintenant, si vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle. Et il n'y a rien en vous. Toutes les choses anciennes ont passé et il n'y a que la fontaine. De l'eau amère et de l'eau douce ne peuvent provenir de la même fontaine. Voyez-vous, l'arbre est reconnu par le fruit qu'il porte. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Il y a bien longtemps, tous les méthodistes pensaient, « Mon vieux, nous l'avons, nous pouvons crier. » Après les jours de Luther, il pensait que parce qu'il criait, il l'avait. Je crois aussi dans le fait de crier, mais ce n'est pas pour cela que je l'ai, c'est l'attribut montrant que je l'ai. La Pentecôte est venue, on parlait en langue, on disait, « Oh, maintenant nous savons que nous l'avons. L'aviez-vous ? Vous devez avoir changé d'avis maintenant. Ce n'est pas cela, vous découvrez que ce n'est pas cela. Oh, mon frère, cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra jamais sa puissance. » Jusqu'à ce que l'Église rachetée de Dieu soit sauvée pour ne plus jamais pécher. Voyez-vous, voici ce que c'est. Et depuis, par la foi, j'ai vu le fleuve que tes sanglantes blessures alimentent. L'amour rédempteur a été mon thème et il le sera jusqu'à la mort. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et si j'ai donné tous mes biens pour la nourriture des pauvres, cela ne me sert de rien. Et quand j'aurai la puissance pour faire déplacer les montagnes, et ainsi de suite, cela ne me sert de rien. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et où il y a la connaissance, cela disparaîtra. Mais lorsque le parfait amour sera venu dans le cœur humain, tous les démons de l'enfer ne seront pas capables de le renverser. C'est juste. Si ma femme me respectait parce qu'elle avait peur de moi, je ne serais pas, j'aurais peur de la quitter. Mais elle m'aime, elle a confiance en moi parce qu'elle sait que je l'aime et elle m'aime. Maintenant, lorsque je pars, je ne dois pas dire, « Maintenant, Madame Branham, je vais te donner toute une série d'ordres ici auxquels tu devras obéir, tout un tas de commandements. Tu ne regarderas pas un autre homme, tu ne feras pas ceci, ou tu... je... » Eh bien, c'est automatique. Je l'aime et elle m'aime. Cela règle la question et je vais de l'avant. C'est de cette façon que l'on vit pour Christ. Alléluia! Vous l'aimez simplement de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, et vous continuez, c'est tout. Aucun mal ne peut se manifester, c'est juste. Parce que là-dedans, à toute chose, vous êtes mort. Vous êtes mort et votre vie est cachée en Dieu par Christ, scellée là-dedans par le Saint-Esprit. Comment le diable va-t-il pouvoir vous avoir? Non. Prenez un wagon. Ils vont commencer à le charger sur la voie ferrée. Beaucoup d'entre vous ici, je sais que certains d'entre vous chargent des voitures. Ils iront d'un coin à l'autre, ils demanderont qu'il y en ait tant ici et tant là. Mais avant que la voiture puisse être scellée, l'inspecteur doit venir. Il vérifie tout et veille à ce que tout ce qui y est soit bien rangé, que tout soit prêt. Il va aller vers sa destination. Bien si quelque chose est détaché, s'il a trop peur que cela se casse, il dira « Sortez-le et remettez-le jusqu'à ce que ce soit en place. » Et lorsque tout est bien serré ensemble et empaqueté et installé, alors il fera claquer la porte et la scellera et personne ne peut briser ce sceau jusqu'à ce qu'il arrive à sa destination. Est-ce juste? C'est ainsi qu'il en est quand il est écrit dans Éphésiens 4:30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu » par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de votre rédemption. S'il y a un bruit de ferraille qui se sont desserrés, Dieu le sortira de vous et l'arrangera avant que vous soyez scellé dans le royaume. Chaque homme et chaque femme ici sent le baptême du Saint-Esprit. La seule raison pour laquelle vous ne l'avez pas reçu, c'est parce que vous ne croyez pas. C'est juste. Le fait de croire, nous avons pris et prouvé cela cette semaine, qu'Abraham crut Dieu par la foi. C'est juste. Maintenant, c'est une bonne doctrine baptiste de croire Dieu. Frère Tom, vous savez, je pense que vous sortez d'une église baptiste dont on dit qu'il croit en Dieu. Moi aussi, c'est une bonne église dont il vaut mieux ne pas faire partie. Excusez-moi, je ne voulais pas dire cela. Maintenant, juste un moment, je n'ai rien contre les baptistes. Ils ont énormément de bonnes choses. Mais regardez, frère, je les ai entendus à la radio l'autre jour. Un garçon, un bon prédicateur baptiste, essayant de passer par-dessus Acte 19, il dit, « Apollos ne connaissait pas Jésus, c'est donc la raison pour laquelle ils durent être rebaptisés. » Oh non, Apollos connaissait Jésus, et il prouvait par la parole de Dieu que Jésus était le Christ. Amen. Et il dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ?» Dieu donna la promesse à Abraham, et il crut la promesse, et cela lui fut imputé à justice, mais il lui donna le signe de la circoncision comme un sceau de la promesse. Alléluia! Vous croyez Dieu par la foi que vous êtes sauvé et l'avez accepté, et aussi longtemps que vous faites cela, Dieu vous donne le Saint-Esprit comme un sceau de la promesse qu'il vous a promise. Le Saint-Esprit est le don de Dieu, c'est vrai, qui circoncit le cœur, coupe le surplus de chair et fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Très bien, nous y voilà. Ce n'est rien où vous avez eu quelque chose à faire vous-même. C'est un don de Dieu. Et lorsque vous croyez correctement, Dieu vous le donne. C'est par la foi. Vous, maintenant, la foi n'est pas la chose même. C'est comme si j'ai une pièce de 25 cents et un pain coûte une pièce de 25 cents. Frère Branham laisse tomber une pièce de monnaie, note de l'éditeur. Je la ramasserai dans un moment. La pièce de 25 cents n'est pas le pain, mais avec cette pièce on achète le pain. C'est ce qui permet d'acheter le pain. C'était justement un demi-penny d'Afrique. Ainsi, je suppose que c'est la raison pour laquelle elle s'est retournée. Très bien. La pièce de 25 cents n'est pas le pain. Cette pièce permet d'acheter le pain. La foi est ce que vous avez en Dieu, et cela en reconnaissance Dieu pour votre foi vous donne le Saint-Esprit qui circoncit le cœur et les oreilles. Est-ce juste? Cela fait de vous une nouvelle créature. Maintenant Dieu se prépare à délivrer, nous avons découvert qu'il, Moïse, emmena avec lui son propre fils, qu'il était incirconcis, pour délivrer les enfants d'Israël. Et Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son enfant, et le jeta devant lui en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Vous savez, avez-vous déjà étudié cela de tout près? Moïse avait une humeur colérique. Vous savez, ce qui l'empêcha finalement d'entrer en terre promise, ce fut son humeur colérique. Et Dieu l'avait placé là-bas et lui avait donné une petite femme à humeur explosive elle aussi. Je parie qu'ils ont eu quelques ennuis au fond de ce désert. Pas vous? Dieu sait comment vous amadouer. Ainsi il s'occupa de lui là-bas avec une petite femme et montra qu'elle coupa le prépuce et le jeta devant lui en disant, « Tu es un époux de sang. » Oh là là! Il savait comment s'occuper de lui. Comment faire sortir cette humeur colérique de lui? Très bien. Alors ils continuèrent leur route, et il fit des signes, des prodiges et des miracles. Et remarquez, oh là là, j'ai senti quelque chose me frapper. Regardez comment Jannès et Jambres, ces deux astrologues, se tinrent là pour accomplir la même sorte de miracle que Moïse et Aaron. Ils les suivaient tout le long. L'imitation. Frères, le monde en est plein aujourd'hui. L'Église en est pleine aujourd'hui, des imitations charnelles. Il y a une chose pour arrêter cette chose maintenant. Remarquez, l'autre jour, un grand enseignant de la Bible, passant à la radio, dit que la guérison divine était du diable, que le diable opérait des guérisons divines. Je voudrais que vous me trouviez dans l'Écriture où le diable a jamais opéré de guérison divine, où Dieu a jamais promis cela. Dieu dit, « Je suis l'Éternel ». Psaume 103, verset 3, « Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. » Et Jésus dit, « Si Satan chasse Satan, alors son royaume est divisé contre lui-même. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas se chasser lui-même. Ainsi, toute guérison, peu importe d'où elle vient, vient uniquement de par Dieu. » Et regardez ces magiciens. Ils pouvaient faire venir les poux, mais ils ne pouvaient pas les enlever. Ils ne pouvaient pas guérir, ils pouvaient accomplir le prodige, mais ils ne pouvaient pas accomplir la guérison. La guérison réside en Dieu seul. Et lorsqu'ils appelèrent les ulcères, les Égyptiens eux-mêmes furent couverts d'ulcères. Et ils dirent, c'est le doigt de Dieu. Alléluia! Je pense à ce doigt de Dieu. Si Dieu pouvait ouvrir un œil aveugle avec son doigt, c'est le doigt de Dieu. Il pouvait faire toutes ces choses. Regardez ce qu'il fit avec son doigt. Il guérit les malades, ressuscita les morts, toutes ces choses, il les fit avec son doigt. Mais lorsqu'il alla chercher la brebis perdue, il n'utilisa jamais son doigt. Il la plaça sur son épaule et il la fit rentrer. Alléluia! Quelle sécurité! Une brebis perdue sur son épaule, pas son doigt. Il ne l'utilisa pas, il utilisa son épaule pour ramener la brebis. Regardez, puis Dieu... Après s'être occupé de Moïse, après l'avoir préparé, envoya les signes, et le dernier signe, nous l'avons vu hier soir, était la mort. Et nous avons découvert que c'est la mort spirituelle dans l'Église, la dernière plaie maintenant, l'Église se desséchant et disparaissant. C'est juste, nous vivons un temps horrible. Comment l'Église, les anciens, qui avaient l'habitude d'avoir réellement la victoire, est en train de perdre la bataille. C'est un temps de mort. Il laisse le sang s'effacer de devant la porte. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Ils continuèrent leur route jusqu'au rocher frappé. Remarquez, lorsqu'ils arrivèrent à ce rocher, ils avaient un besoin. Maintenant Moïse frappa le rocher avec la verge. C'est là que nous nous sommes arrêtés hier soir. Il frappa le rocher avec la verge et la verge était la verge du jugement de Dieu. Et il frappa le rocher, et il y eut une faille dans le côté gauche du rocher. Lorsque les enfants d'Israël eurent faim, ils allèrent là. Et une ruche, une abeille s'était glissée là, et avait fait une ruche, et ils eurent du miel du rocher. Tout ce dont ils avaient besoin était dans le rocher. Le rocher a suivi l'Église, et le rocher était le Christ Jésus. Lorsqu'ils avaient soif, ils ont bu du rocher. Lorsqu'ils avaient faim, ils mangeaient du rocher. Là où ils allaient, le rocher les suivait, et le rocher a toujours suivi l'Église. Christ est le rocher qui était dans le désert. Remarquez maintenant, donc, ce même rocher. Pas étonnant que lorsqu'il entra à Jérusalem, il dit, qu'il se taise, que tous se taisent. Il dit, s'il se taise, les rochers, les pierres crieront. Qu'est-ce? Cette pierre angulaire principale était venue, descendant en roulant parmi les pierres. Quelque chose devait arriver. Les pierres criaient. La femme qui avait une perte de sang depuis si longtemps, lorsqu'elle parla au rocher, le rocher produisit la guérison. Lorsque Lazare était mort, Marthe parla au rocher et il apporta la résurrection. Lorsqu'ils étaient sur la mer, entourés de tempêtes, et le vieux petit bateau était ballotté par les flots, comme un bouchon de bouteille au milieu de la mer. Une femme m'a dit, il n'y a pas longtemps, elle a dit, « Frère Branham, dit-elle, Jésus n'était rien de plus qu'un homme ordinaire. » Elle dit, « Il était un prophète, mais vous essayez de faire de lui Dieu. » Je dis, « Il était Dieu. Il était soit Dieu, soit un séducteur. » Elle dit, « Oh, il était un homme bon, il était un philosophe, mais il ne pouvait pas être Dieu, il n'était pas divin. » Je dis, « Il était divin, il devait être divin. » S'il était un homme, il serait né d'une naissance sexuelle, mais il naquit d'une naissance virginale. Ainsi, il était le sang de Dieu. La Bible dit, nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Elle dit, je vais vous le prouver. Il n'était pas plus que Dieu, pas plus qu'un prophète, et il n'était pas divin. Je dis, si vous pouvez le prouver par la Bible. Elle dit, je vais le faire. Je dis, écoutons votre passage de l'Écriture. Elle dit dans Jean, le chapitre 11, lorsque Jésus est allé ce jour-là vers la tombe de Lazare, je dis, je m'en souviens. Elle dit, il pleura. La Bible dit qu'il pleura. Je dis, c'est vrai. Je dis, quel rapport y a-t-il avec cela? Elle dit, cela prouve qu'il n'était pas divin, parce qu'il ne pouvait pas pleurer et être divin. Je dis, regardez, madame, il était le Dieu homme. Je dis, lorsqu'il descendit là, pleurant, alors qu'il était en train de pleurer, il était un homme. Mais je vous dis, lorsqu'il fit sortir cette petite forme et dit, « Je suis la résurrection et la vie », et il parla à un homme qui était mort depuis 4 jours, son corps était putréfié, les vers rampaient dans le corps et en ressortaient, la corruption connut son maître, et un homme qui était mort depuis 4 jours se leva sur ses pieds et vécut à nouveau. C'était plus qu'un homme qui parlait, c'était Dieu. Oui, monsieur, il était un homme. Lorsqu'il était là-haut sur une montagne cette nuit-là, il descendit, cherchant partout autour d'un arbre pour trouver quelque chose à manger, un figuier, essayant de... il avait faim lorsqu'il était un homme. Lorsqu'il cherchait sur cet arbre, il était un homme. Mais lorsqu'il prit 5 biscuits et 2 morceaux de poisson et nourrit 5 000 personnes, c'était plus que Dieu, plus qu'un homme. C'était Dieu dans cet homme. Oui, monsieur. Vraiment, il était un homme. Lorsqu'il était couché dans ce bateau, et le bouchon où était comme un bouchon de bouteille, il dit, « Oh, je vais le pousser de tous côtés et le faire rebondir. » 10 000 démons de la mer jurèrent qu'il le noierait cette nuit-là. Il était un homme, si fatigué qu'il ne pouvait bouger. Mais lorsqu'il mit son pied sur le bord du bateau et dit, « Silence, taisez-vous, et les vents et les vagues lui obéirent, c'était plus qu'un homme, c'était Dieu. » Oui, monsieur. Lorsqu'il mourut au calvaire, il cria après la grâce comme un homme. Il était un homme lorsqu'il mourut, mais lorsqu'il ressuscita le matin de Pâques, il prouva qu'il était Dieu. C'est vrai, il ressuscita des morts. Ce n'est pas étonnant que le poète dit, « Vivant, il m'a aimé, mourant, il m'a sauvé. » Enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscitant, me justifia, libre à jamais. Il viendra un jour, ô glorieux jour. Le Dieu homme, Dieu était en son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. On avait affirmé qu'il était un magicien et un devin et un démon et Belzébul et ainsi de suite, mais il était Dieu Emmanuel, habitant parmi nous, réconciliant le monde avec lui-même. Nous avons eu cela sur une question ce matin, de toute façon. Nous aborderons cela et terminerons demain. D'accord. Continuons. Ainsi ce rocher frappé. Lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ils allaient au rocher. Maintenant, après tout cela, et les bénédictions et choses semblables, ils murmuraient encore. Ils arrivèrent à l'endroit appelé Kadesh Barnéa. Maintenant, nous voulons étudier cela juste un moment. Kadesh Barnéa était le tribunal du monde en ce jour-là. Cela se trouve au 13e chapitre des Nombres, maintenant, et inscrivez les Écritures si vous voulez maintenant. Là, il y avait le tribunal. Lisez les chapitres précédents, cela dans votre étude. Nous devons seulement toucher les points importants maintenant, 3 ou 4 jours de réunion de réveil comme celle-ci. Nous ne pouvons pas l'étudier verset après verset, mais c'était un tribunal. Il y avait un grand puits là, et beaucoup de petits puits sortaient de lui, les affluents ou les sources de cette grande et importante source, Kadesh Barnéa. Un parfait type de l'Église. L'Église est le tribunal. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Israël s'est assemblé là à Kadesh. Et maintenant, Moïse dit ici le premier verset, 13e chapitre. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je viens de donner aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Maintenant, Dieu ordonna que 12 hommes soient envoyés là-bas, un de chaque tribu, qu'on les envoie là-bas dans le pays de Canaan pour épier le pays, pour voir si c'était un bon endroit ou pas. Les espions partirent, un de chaque tribu, un de Dan, Aser, de chacune, jusqu'à ce que cela fasse 12 hommes. C'est tout à fait l'Église d'aujourd'hui dans nos voyages. Je crois que nous avons voyagé jusqu'à ce que l'Église se tienne aujourd'hui à Kadesh Barnéa, le jugement. Maintenant, Dieu me vienne en aide. J'espère que Dieu va m'aider pour vous donner ceci. Cela pénétrera bien et profondément. Envoyez des éclaireurs. Souvenez-vous, ils étaient arrivés si loin parce que Dieu le leur avait promis. Et tout le temps, ils avaient eu des signes, des prodiges et des miracles. Et maintenant, ils sont arrivés juste à la frontière du pays. Et je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. Je me demandais au sujet de toutes mes réunions et tout cela, comment je devais les annuler. Je crois sincèrement que, avant que l'Église puisse se trouver dans l'enlèvement, elle doit avoir la foi de l'enlèvement. Nous ne pouvons pas même avoir de la foi pour la guérison divine. Ne parlons pas de foi d'enlèvement. Nous devons avoir une foi qui changera et donnera la vie à ce corps et être enlevé. Je crois qu'il y a une Église en route ce soir, une puissance du Dieu vivant, tels que des hommes prononceront la parole ici et là, et cela jettera comme des éclairs, et une Église sort de tout cela. Pas un psychologue, pas de ce vernis, de ce semblant de foi, mais une réelle, véritable, authentique Église du Saint-Esprit, ointe et appelée hors d'heure. Amen. Ils se tiennent là, à Kadesh Barnéa. On leur dit, allez de l'autre côté. Le pays nous a été donné par Dieu à travers notre Père, il y a plusieurs centaines d'années. Nous sommes la postérité d'Abraham. Dieu nous a conduits sûrement durant ces 60 et quelques kilomètres en Égypte jusqu'à la frontière à Kadesh. Ils devaient y arriver après quelques jours. Mais souvenez-vous, à cause de leur incrédulité, ceci les fit errer pendant 40 ans. L'incrédulité. Remarquez, c'est de l'Église que je parle sous forme de parabole. Ce qu'était l'ancien, voilà ce qu'est le nouveau, d'une façon encore plus amplifiée. Le spirituel est ce qu'était le naturel. Maintenant à Kadesh. Et là il dit, maintenant vous, allez-y et explorez. Dieu les envoya. Moïse ne l'avait jamais fait. Dieu les envoya là-bas et dit, allez là-bas pour explorer le pays. Et revenez nous dire si c'est un bon pays ou un mauvais pays, ou si nous pouvons le prendre, ou bien ceci, cela et encore cela. Vous, passez de l'autre côté et allez vous rendre compte de ce qu'il en est. Il y en a 12 qui y sont allés. Ils coupèrent une grande grappe de raisin. Vous savez, au sujet de Rahab, la prostituée, et ainsi de suite. Très bien. Ils allèrent là-bas et coupèrent cette grappe de raisin, et ils revinrent. Mais écoutez le rapport des 12 hommes. 10 parmi les 12 dirent, « Oh, c'est un peuple à faire frémir. Regardez là-bas, quelle vue !» Écoutez ceci. Si maintenant nous passons au 17e verset, ou au 27e verset plutôt, et nous lisons, « Il va de l'avant et dit, là, quels sont les hommes qui étaient envoyés ?» Et lorsqu'ils revinrent, le cœur leur manquait. Ils dirent, « Oh, ce sont des hommes de grande taille. » Écoutez ici. Voici ce qu'ils leur racontèrent. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Tout simplement comme Dieu avait promis. Maintenant remarquez. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, alléluia! Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ah, j'aime cela, oh là là! Juste un peu plus loin. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Écoutez cela. Et ils continuèrent en disant que nous sommes comparés à eux comme des sauterelles. Voilà le rapport. Mais Caleb et Josué dirent, nous pouvons le prendre. Nous sommes capables de le faire. Pourquoi sont-ils capables de le faire? Dieu leur avait promis de le faire. J'aime ce courage. Il y en avait 10 d'entre eux. Maintenant, l'Église a surgi. Elle est arrivée au point maintenant où nous avons traversé l'âge Luther, l'âge méthodiste et l'âge pentecôtiste, ainsi de suite, jusqu'à un point déterminé. Et maintenant, certaines personnes du plein Évangile se sont retournées fermement contre la guérison divine. Elles croient que ce n'était même pas dans l'expiation. Bien, on en est venu au point, mes amis, où on... Cela devient affreux en ce moment. La religion du bon vieux temps, disent-ils, c'est quelque chose qui est passé depuis bien longtemps. Nous ne pouvons pas l'avoir. C'est trop. Nous vivons dans un temps moderne. Nous devons recevoir des idées modernes. Nous devons avoir des tables de jeu dans l'église, des jeux de ping-pong et autres pour garder nos jeunes gens. Frères ou sœurs, s'il vient un temps où je dois avoir une partie de cartes dans l'église pour garder un auditoire, j'arrêterai de prêcher l'évangile parce qu'il aurait perdu sa puissance. Je vous le dis, frères, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de l'évangile simple à l'ancienne mode, la puissance du Saint-Esprit prêchée dans sa simplicité. L'homme et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Oui, monsieur, nous aujourd'hui on dit, oh, nous ne pouvons pas revenir en arrière et faire ces choses que les apôtres ont faites. Nous vivons dans les derniers jours, le temps dans lequel Dieu a promis qu'il déverserait son esprit sur toute chair. Alléluia! Nous sommes ici à la fin de la route. Je remercie Dieu pour les Caleb et les Josué qui sont prêts à traverser. Alléluia! Allez de l'autre côté et rapportez l'évidence. Alléluia! C'est un glorieux pays. Ils rapportent 2 grappes de raisin et ils marchaient comme ceci pour essayer de les porter. Quelle terre, quel endroit! Remercions Dieu pour des gens qui ont traversé, qui sont sortis de leur vieille église formelle, liée par des entraves, impies et retardataires. Alléluia! Ils ont atteint le point où ils sont passés au pays de Canaan et ont mangé beaucoup de bons raisins qui vous font même saliver en chair. Alléluia! C'est tout de cette sorte, à l'ancienne mode. Ivre de vin comme celui que Pierre a bu le jour de la Pentecôte, lorsque la puissance de Dieu s'empara de l'Église. Alléluia! Kadesh Barnea, nous pouvons le faire. Un garçon m'a dit, voulez-vous dire que nous pouvons avoir le Saint-Esprit comme ils l'ont reçu il y a si longtemps? Oui, monsieur. Alors comment le savez-vous? Je dis, je l'ai reçu. Alléluia! C'est pourquoi je le sais. Nous avons eu un beau type hier soir. Lorsque les enfants d'Israël traversèrent le pays, traversèrent pour arriver dans leur pèlerinage, ce qui était un parfait type de notre pèlerinage. Nous sortons de Canaan. J'ai tiré mes piquets, mes tentes, et j'ai quitté. Et vous, abandonnant l'ail d'autrefois, et les pots de viande d'autrefois, et la puanteur du monde, j'ai démonté ma tente, quitté, traversé le Jourdain. Alléluia! La mer rouge du sang de Jésus-Christ a noyé chaque vieille cigarette. Le tabac, la saleté, les ordures du monde ont été noyées, comme les chefs de corvée de jadis, elles flottent dans la mer. Alléluia! Ne vous étonnez pas que nous crions et dansions. Regardez ce que fit Moïse. Il leva la main et chanta dans l'esprit, et Myriam prit un tambourin et commença à danser et à sauter de ci de là et louait Dieu. Et les filles d'Israël la suivaient, dansant et louant Dieu et criant « Alléluia !» Ils traversèrent la mer. Tous les anciens chefs de corvée étaient derrière, morts, là-bas dans la mer. Ils regardaient en arrière et disaient « Mon vieux, tu ne me troubleras plus jamais. Oh là là, j'ai brûlé les ponts tout autour, prêt à marcher maintenant et continuer mon voyage. » Alors ils dirent « Pourrons-nous le prendre ? Bien sûr nous le pouvons. Pourquoi ? Dieu l'a dit. » Et souvenez-vous, Dieu a promis de subvenir à leurs besoins. Nous l'avons vu hier soir. Comment vont-ils subvenir ? Je l'ignore. Bien, peut-être enverront-ils là-bas quelques pâtés de quelques... Il ne reste plus rien en Égypte. D'où viendra la pâte ? Oh là là, ce n'est pas mon problème. Une fois quelqu'un me dit, croyez-vous à propos d'Élie, cette histoire d'oiseau là-bas ? Je dis, bien sûr. Il dit, voulez-vous dire que vous croyez que ce prédicateur s'assit là-bas au bord du ruisseau de Kérit et que les corbeaux le nourrirent ? Je dis, bien sûr. Comment savez-vous qu'ils le nourrirent ? Je dis, la Bible le dit. C'est exact. Il dit, je voudrais vous demander quelque chose, pasteur. Il dit, à quel endroit de la terre pensez-vous que ces corbeaux ont trouvé ces sandwichs ? Je dis, je ne sais pas. Ils les ont apportés et Élie les a mangés. C'est tout ce que je sais. Il dit, je crois que vous vous êtes tous excités. Je dis, non, je ne peux pas vous dire d'où cela venait, mais cela est venu de quelque part. Dieu l'apporte et nous le mangeons. Alléluia ! Et cela produit de la joie. Comment cela arrive, je ne sais pas. Dieu l'envoie tout simplement et je le saisis. J'en ai pris une poignée il y a juste quelques minutes et je l'ai avalé. Cela me fait encore du bien pendant que cela descend. C'est bon, ne vous excitez pas, je ne suis pas fou. J'ai été appelé ainsi, mais je ne le suis pas. Et si je le suis, laissez-moi simplement tranquille, je suis heureux. Très bien, oui, c'est vrai, je me sens vraiment transporté maintenant même. Et comment ? Très bien. Regardez-le, les voilà. Comment ferons-nous ? Maintenant, Dieu fit pleuvoir la manne du ciel et les nourrit, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il les nourrit, et ils l'ont ramassé, nous avons vu cela. Maintenant, c'était un type parfait de notre manière de se nourrir aujourd'hui. Cette manne n'a jamais cessé. Elle est tombée chaque nuit, tout le temps qu'ils étaient dans leur voyage de l'Égypte à la terre promise. Et le Saint-Esprit tomba dès que les disciples quittèrent l'Égypte. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vint du ciel, du même endroit que la manne, comme un vent impétueux qui soufflait. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues fendues se tinrent au-dessus d'eux comme du feu. Ils sortirent de là, criant et se comportant comme des hommes ivres, dansant, chancelant, criant, et ainsi de suite. Avez-vous jamais vu un homme ivre rentrer chez lui ? Mon ami, il prend les deux côtés de la rue. Salut, ô étranger, rien ne le dérange. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8.1. Les voilà qui viennent, rentrant à la maison maintenant, et ils chancèlent sous l'emprise du Saint-Esprit, qui était la manne de Dieu descendue du ciel. Elle est tombée depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce qu'était l'homère. Il restait plein afin que chaque prêtre qui entrait puisse avoir une bouchée de la manne originelle. Combien de temps cette manne allait-elle durer ? Révisons ce que nous avons eu hier soir dans la leçon. Pierre dit, repentez-vous chacun de vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Saint-Esprit est simplement le même Saint-Esprit ce soir, qu'il était là-bas au commencement. Pouvons-nous saisir cela ? Oui, monsieur. L'Église arrive à Kadès. Qu'allez-vous faire ? Nous y voilà. On dit, maintenant chacun individuellement, vous êtes chacun d'entre vous à Kadès, c'est là que nous arrivons. On dit, maintenant si je vais là-bas et fréquente la religion de ces saints comédiens, de ces fanatiques dont on parle, ma maman me mettra à la porte de la maison. Nous y voilà, à Kadès. Pouvez-vous le faire ? Oui, Dieu vous l'a promis. Je ne viens pas apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu séparer le père et la mère, le mari, la femme, la sœur, le frère et tout. Et celui qui ne renonce pas aux siens pour me suivre n'est pas digne d'être appelé mien. Et celui qui met la main à la charrue et va jusqu'à se retourner pour regarder en arrière n'est pas digne. C'est juste. Frère, je vous dis, cela signifie beaucoup, beaucoup plus que s'avancer et serrer la main du prédicateur et quelques gouttes d'eau aspergées sur vous. C'est juste, frère. Cela consiste en bien plus que s'approcher de l'autel, prendre la communion et revenir vous asseoir à vos sièges. Cela signifie un dépouillement complet, une mort complète, mon frère, pour avoir une religion à l'ancienne mode, une religion des forêts, du ciel bleu, une religion qui tue le péché, non pas une religion qui vous blanchit, mais qui vous lave et vous rend blanc. Alléluia! Cela vous nettoie, cela brûle toutes vos impuretés, cela vous purge, vous stérilise et fait de vous une nouvelle personne. Amen! C'est le vieux temps du sassafras, frère. Mais je vous dis, cela restera bien accroché dans vos côtes. Prenez un peu de cela. C'est juste, cela vous gardera à travers les épreuves. Amen. J'ai l'impression que je vais bientôt crier. C'est bien grand pour... Oui, monsieur. Quand je pense à cela, frère, tout est assuré. Dieu l'a dit. Pouvons-nous le saisir? Bien sûr que nous pouvons le saisir. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit... Je ferai paraître des signes et des prodiges. Alléluia! Il a dit qu'il le ferait. Dieu l'a promis. Nous sommes à Kadès. Emparons-nous de la chose. Quelqu'un a été de l'autre côté et a rapporté quelques raisins. Je sais que le pays est bon. C'est juste. Traversons et prenons quelques raisins. C'est vrai. L'Église a commencé à murmurer et à ne pas savoir comment se tenir et tout le reste. Dieu aurait envoyé l'Église en mission il y a des années, s'ils l'avaient seulement écouté. Mais ils ont commencé à discuter, à se disputer, à murmurer partout. Les méthodistes eurent un réveil à l'ancienne mode jadis, au temps de Spurgeon. Ils ont commencé à recevoir des dons et ainsi de suite. Et l'Église s'est immiscée juste là-dedans et a commencé à déchirer cette chose en pièces. Et cette Église a erré depuis dans le désert. Elle n'a fait qu'errer. Elle s'est divisée en Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ceci et cela, et cela, et encore cela, et tout le reste, jusqu'à ce que maintenant cela ressemble à un grand groupe de je ne sais quoi. C'est vrai. Ils ont organisé de grandes écoles et pensaient qu'il fallait enseigner la théologie d'un certain endroit. Comme j'ai dit hier soir, cela me fait penser à une morgue d'une entreprise des pompes funèbres. Vous en faites le tour là-bas et il fait tellement froid. Si vous entrez, le thermomètre spirituel indique 75 degrés sous zéro. Quelqu'un une fois, il n'y a pas longtemps, une vieille petite femme vint de la campagne. Elle entra. Elle portait sa vieille longue robe qui montait jusqu'à son cou comme ceci. Elle entra. Son fils l'avait amenée à l'église, mais il avait honte d'elle. Elle monta jusqu'à la porte et dit « Bonjour, frère ancien ». Elle entra comme cela. Et son mari ou un de ses frères ou son fils dit « Oh, maman, tiens-toi tranquille. » Il était allé, appartenait à une de ces grandes églises aristocratiques, vous savez. Elle dit, « Bien, gloire à Dieu, ne suis-je pas dans la maison de Dieu ?» Elle ne connaissait rien d'autre. Laissez-moi vous dire, frère, il se peut que son nom ne soit pas trouvé dans le Wuzhou, comme c'est le cas pour beaucoup, et on dit que 400 d'entre eux sont parfaits, mais son nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Je préférerais avoir le mien là-dedans plutôt que dans tous les vous. Alléluia! Cela vous dit qui est qui. Il y a un nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Elle entra et s'assit comme cela. Le prédicateur commença à dire, « Maintenant, le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour sauver le pécheur. » Elle dit, « Amen! Gloire à Dieu! C'est juste, frère! » Et tout le monde redressa le cou comme une oie regardant tout autour, se demandant « Pourquoi ?» Et ainsi il dit « Il lisait ses notes, vous savez. Ainsi il était quelque peu embrouillé alors. Il dit « Excusez-moi. » Il dit « Et comme je disais, le Seigneur Jésus-Christ vint sur la terre. » Elle dit « Gloire à Dieu, c'est juste, frère. Alléluia !» Aussi l'huissier se dirigea vers le fond et lui tapa sur l'épaule et dit « « Madame, vous devez vous tenir tranquille, sinon nous devrons vous mettre à la porte. » Oh là là, alléluia, c'est là-dedans que nous sommes entrés, c'est vrai, des écoles de prophètes. Nous faisons des enseignants, nous leur injectons un vieux fluide embaumeur pour les conserver, ils sont morts de toute façon. Et alors on met des fluides embaumeurs pour garder la forme encore plus morte, quelques vieilles petites théologies qu'ils enseignent. Le jour des miracles est passé. Une religion qui vient du cœur, ça n'existe pas. Cela me rappelle un homme de couleur au loin, dans le sud, un vieil homme qui portait sa Bible partout. On lui dit, « Pourquoi portes-tu cette Bible, mon ami ?» Il dit, « Moi la croire. » On lui dit, « Mais tu ne peux pas en lire un seul mot. » Il dit, « Moi la croire de toute façon. » Il dit, « Je la crois de couverture à couverture, et je crois que la couverture aussi. » On lui dit, « Comment sais-tu ces choses ?» Il dit, « Il est écrit dessus la Sainte Bible. » « Oui, monsieur. » Il la croit de toute façon. Cela ne faisait aucune différence. On lui dit, « Que ferais-tu » dit-on, « Tu ferais n'importe quelle chose qui se trouve dans cette Bible ?» Il dit, « Si le Seigneur me dit de faire quoi que ce soit, je le ferai. » Il dit, « S'il te disait de sauter à travers ce mur, il dit, je sauterai. » On lui dit, « Crois-tu que tu pourrais traverser ce mur sans qu'il y ait un trou dedans ?» Il dit, « Si le Seigneur me disait de sauter, il y ferait un trou pour moi. » C'est vrai aussi cela, frère. Alléluia. C'est la vérité. Dieu vous dit de sauter. Il aura fait en sorte qu'il y ait un trou là lorsque vous y arriverez. Ne vous faites pas de soucis pour cela. L'école et la théologie, oh là là, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont substitué une salle de souper à la chambre haute. Ils ont fait bouillir un vieux coq et rassemblé leurs 50 cents par assiette pour essayer de payer le prédicateur. Frère, si vous payiez vos dîmes et faisiez ce que Dieu a dit que vous deviez faire, vous n'auriez pas ces vieux soupers au potage. Frère Branham frappe la chair avec la main de l'éditeur. Et ces choses comme cela, amen. Même l'huile pour l'onction a coulé après ça. Laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Dieu veut une église qui avance dans la divine volonté de Dieu, basée sur le « ainsi dit le Seigneur ». Oui, c'est vrai. Ils ont enlevé toute l'attente de la chambre haute, tout d'un coup. Ce qu'ils ont fait à la place du Saint-Esprit, ils lui ont substitué de la théologie. Quelqu'un s'en va prêcher et dit, « Bien, nous croyons ceci, nous croyons cela. » Pourquoi croyez-vous cela? Ce n'est pas dans la Bible, rien à ce sujet. Quelqu'un dit, que pensez-vous de ce prêtre ici? L'autre jour, il est parti avec cette femme et s'est marié avec elle. Je dis, il avait le droit de le faire. Il a autant le droit de se marier que moi ou qui que ce soit d'autre. Vous ne pouvez pas trouver cela dans la Bible. Un jeune garçon catholique me dit, est-ce vrai, Billy? Je dis, c'est la vérité. Il dit, montre-le-moi. Et je dis, bien, je te montrerai dans la Bible que le mariage soit honoré parmi tous. Alléluia. Paul dit que chacun est sa femme. C'est tout à fait juste. Je dis, c'est une invention romaine, et il n'y a pas plus de vérité dans cela que dans le fin fond de l'enfer. Alléluia. Je crois la parole de Dieu. Je dois croire quelque chose. Et ceci est ainsi dit le Seigneur. Une fois, ils eurent un groupe de prédicateurs en route comme cela. Jadis, dans l'Ancien Testament, leur enseignant tout un tas de choses. Je vais vous montrer quelle sorte d'éducation ils avaient. On leur enseignait tout ce qui concernait la théologie de ce jour-là, l'école de prophètes. Et on est venu jusque-là un jour pour voir un véritable prophète. Le prophète dit à l'un d'eux, « Va et ramasse-toi une brassée de légumes maintenant. Nous les mettrons dans la grande bouilloire. Nous aurons un grand pot de pois. » Et vous savez ce que ce prédicateur fit? Il sortit et ramassa une brassée de coloquintes, des gourdes vertes d'une vigne sauvage. Mon ami, un gars qui ne savait pas la différence entre des pois et des gourdes sauvages, est un drôle de prédicateur, je vous le dis. Il les jeta dans la marmite et commença à faire cuire. La première chose, vous savez, chacun eut une grande assiette de cela comme cela. Il dit, la mort est dans le pot. C'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Il y a la mort dans le pot. Certains vieux et froids séminaires, formalistes, des endroits impies, et où on essaye d'enseigner une théologie quelconque. Ils arrachent les gens, ils les éloignent de Christ. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour donner la vie. Alléluia. Ouf! Il me semble que je suis deux fois plus grand maintenant. Mais c'est la vérité, frère. On cuit quelque chose. C'est bien vrai. On fait cuire quelque chose. Mais que fait-on cuire? Cela, c'est autre chose. Un gars qui ne connaissait pas la différence entre les coloquins verts et des pois. C'est un peu comme certains d'entre eux. C'est la vérité. Oui, monsieur. Ils dirent la mort est dans le pot. Le vieil Élie était un vrai prophète. Il dit, oh, ne vous faites pas de soucis pour cela. Ne vous troublez pas ainsi. Amen. Nous avons un garçon ici qui a une double portion. Alléluia. Il avait traversé le pays de Canaan. Il était revenu. Il avait une double portion. Il dit, ils savent quoi faire lorsque les ennuis arrivent. Il dit, va me chercher une poignée de farine. Il prit la farine et la jeta dans le pot. Il dit, maintenant, mangez tout ce que vous voulez. C'est en ordre maintenant. Pourquoi la farine? La farine était là pour être agitée, pour l'offrande de farine, l'offrande agitée devant le Seigneur. Et cette farine devait être écrasée par la meule qui écrase chaque grain de la même façon. Cette offrande de farine était Christ. Mettez Christ là-dedans, chaque meule de la même façon, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il y a la mort dans le pot, mettez-y Christ. Alléluia. Ouf, gloire. Alléluia. La première fois que j'ai vu quelqu'un qui avait le Saint-Esprit, c'était un vieil homme de couleur, vêtu d'un grand long manteau. Il devait l'aider comme ceci. Il était si vieux. Et il monta sur l'estrade et commença à prêcher. Beaucoup de prédicateurs ont commencé à prêcher au sujet de ce qui s'était passé sur la terre. Lui, il prit son texte dans Job. Où étais-tu quand je fondais le monde, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Il dit, vous pensez que nous avons une espèce de nouvelle sorte de religion? Il dit, frère, j'ai seulement un goût de l'ancien temps. Je suis un cas battant neuf de religion de l'ancien temps. Au bout d'un moment, le Saint-Esprit se saisit de lui. Le pauvre vieil homme était si ankylosé. Il se tenait là, il se redressa, frappa de ses talons et dit, gloire, alléluia. Il dit, vous n'avez pas assez de place pour moi ici pour prêcher. Il descendit de l'estrade. Je dis, frère, si cela fait une chose pareille pour un homme de 80 ans, qu'est-ce que cela ne ferait pas pour moi? Je le veux. Alléluia. C'est juste. Oui, c'est vrai. J'avais là de grands moments. Je suis sorti droit dans un champ de blé et sur mes vieux genoux rouillés, je suis allé prier pour cela. C'est vrai. C'est comme le brave Buddy Robinson qui continuait à persévérer. Il voulait le Saint-Esprit. Il dit, gloire à Dieu. Je voulais tellement le Saint-Esprit, mais je ne savais pas quoi faire. Il dit, je labourais un champ de blé un matin avec le vieil Alec, son mulet. Il dit, Alec marchait toujours sur le blé. Je devins furieux contre lui. Je courus là-bas et le frappai à l'oreille aussi fort que je pus. Alec me donna un coup de pied. Il dit, je l'ai de l'autre côté, je m'assis. Je le regardais. Il se tenait là. Il dit, j'ai mordu le vieil Alec aussi fort que je pouvais. Il dit, j'ai regardé de son côté. Il dit, Alec, il dit, Alec, je suis désolé, je ne ferai plus jamais cela. Il dit, Alec regarda autour de lui. Il dit, si tu n'arrives pas à plus de religion que ce que tu as maintenant, tu me traiteras de nouveau de cette façon. Oh là là, c'est juste. Il dit, je suis descendu dans un rang de blé. J'ai dit, bon Seigneur, donne-moi énormément de connaissances dans le pignon de mon âme. Aide-moi à combattre le diable aussi longtemps que j'ai une dent dans la bouche. Alors, je vais le massacrer jusqu'à ce que je meure. Il dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, lorsque tu reviendras sur la terre, tu trouveras un tas d'os à cet endroit même. Il le reçut, c'est vrai. Si vous vous mettez réellement à la tâche et que vous la prenez au sérieux devant Dieu, Dieu vous conduira jusqu'à l'autre côté. Peu importe ce que les prédicateurs de séminaire disent, nous pouvons avoir le Saint-Esprit parce que Dieu nous l'a promis. C'est sur cela que Caleb basait sa foi. C'est sur cela que Josué la basait, parce que Dieu avait dit, c'est à vous, je vous l'ai déjà donné. Alléluia! J'aime cela, pas, je le donnerai, je l'ai donné. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés, est-ce vrai? Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Est-ce vrai? Alors, mon frère, au ciel, nous sommes déjà glorifiés ensemble avec Jésus-Christ. Alléluia! C'est juste. Laissez simplement le diable crier et hurler et avoir tous les accès de colère qu'il veut. Ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Oh là là. Passons à d'autres textes ici. Prêchons un peu sur autre chose pour sortir un petit peu de cela. Oh, comme c'est merveilleux. Ils en sont arrivés à murmurer, à discuter. Allons aux environs du 21e chapitre et commençons vers le 5e verset. Ils en arrivèrent à murmurer, à discuter et à s'agiter. Cela coupa leur approvisionnement en eau. Peut-être que c'est cela qui ne va pas avec l'Église ce soir. Elle fait trop d'histoires, ronchonne partout. L'approvisionnement en eau est coupé. Vous savez, je voyage beaucoup autour du monde. Et un des endroits les plus piquants, déplaisants, pour essayer de s'allonger, c'est dans le désert. Tout y a des épines. Vous savez pourquoi? Chaque sorte des moindres mauvaises herbes est un cactus. On ne peut s'allonger nulle part, cela vous pique. La raison en est qu'il n'y a pas d'eau. L'eau adoucit les choses. Où il y a de grandes quantités d'eau, il n'y a pas d'épines ni de chardons où il y a beaucoup d'eau. Et je vous dis, frère, si vous prenez une vieille église qui est desséchée dans ses eaux, dans ses ossements, et où il n'y a pas de Saint-Esprit, et pas de salut, pas de guérison divine, pas de puissance de Dieu, ni de cri, ni de joie, et c'est toujours ceci, oh, elle a fait ceci, et il a fait cela, et il a fait ceci, une piqûre, piqûre, piqûre. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un déversement, d'une effusion à l'ancienne mode, d'un flot du Saint-Esprit, alléluia, et cela adoucit un petit peu. Amen. Cela signifie « ainsi soit-il ». Le Branham Tabernacle en a aussi besoin d'une bonne dose, c'est vrai. Oh, est-ce bien ainsi? Amen. Oh, je vis un bon moment ici. Mes vêtements me vont parfaitement bien, frère Higginbottom. Oui, monsieur, mon col n'est pas trop grand, ma chemise me va bien, je me sens simplement bien. Et même ma femme n'est pas ici, ainsi je peux avoir un bon moment. Oh, ne le lui dites pas, non. Très bien, mais je vis un bon moment. Vous dites, êtes-vous heureux? Bien sûr que je suis heureux. Comment puis-je ne pas être heureux et savoir ce que je sais? Amen. Christ m'a sauvé, m'a rempli du Saint-Esprit. Il m'a donné un billet pour le ciel. Je vis simplement un bon moment, avançant ainsi et disant, avancez chacun d'entre vous. Oui, monsieur. Cela me rappelle un garçon une fois qui allait faire couver une poule. Et la vieille poule avait, il lui manquait un œuf. Et il n'avait pas, il pensa, que vais-je faire pour juste un œuf? Il sortit donc, il trouva un œuf de canne, et il le mit sous la brave poule. Et la brave poule fit naître tous ses poussins, et un canard aussi. Et ils circulaient dans la basse-cour, vous savez. Et comment ce petit canard semblait ne pas être à sa place? Un peu comme l'un de vous, les fanatiques ou prétendus saints comédiens. Maintenant, vous savez, il circulait. Quac, 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 ainsi. Et oh, il sortait de derrière la grange, vous savez. Et la vieille poule attrapa une sauterelle. Et quac, 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 quac. Puis elle faisait cloc, 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 cloc. Et voici que les petits poussins couraient vers elle, comme cela, chacun. Mais le bon vieux petit canard ne connaissait pas l'appel. Quac, quac. Il ne savait pas ce que toute cette poussière signifiait. Elle pénétra dans ses narines, et ainsi de suite. Il était un petit gars de drôle d'apparence, pas à sa place. Il en est de même pour un bon membre du Saint-Esprit à l'ancienne mode dans une vieille église formaliste et froide, simplement pas à sa place. On y parle de tout ceci, cela et encore cela, et de qui est le président. Ils veulent savoir qui est Dieu, ils veulent apprendre au sujet de Dieu. Mais vous savez, cette vieille poule fit une erreur un jour, juste comme ce que fit la vieille église, c'est juste. Elle sortit un jour, loin dans la basse-cour, comme ils avaient fait, et après un moment, le bon vieux canard redressa la tête. Et, frère Branham renifle, note de l'éditeur, il sentit l'eau, c'était sa nature, vous savez, amen, il sentit l'eau, il dit, onk, 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 oh là là, il n'avait pas une nature de poulet de toute façon, il avait une nature de canard, ainsi il sentit l'eau, il y avait un petit cours d'eau là-bas. La vieille poule cria, cloc, 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 cloc. Il cria, honk, 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 se dirigeant tout droit vers l'eau aussi vite qu'il le pouvait. Il en est ainsi lorsqu'un homme est né dans le royaume de Dieu. La vieille Église peut dire, tenez-vous éloignés de ces saints comédiens, c'est une stupidité, c'est ceci, cela et encore cela. Honk, 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 il doit arriver jusqu'à l'eau. Alléluia! Gloire! Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Gloire à Dieu! Vous dites que c'est de la folie, mais frères, nous sommes heureux. Honk, 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 les petits canards commencèrent à se diriger vers l'eau. Qu'est-ce que cela? C'était sa nature. Il n'y pouvait rien. Il y a quelque chose en lui l'appelant vers l'eau. Et lorsque Dieu est dans un cœur, il l'appellera à une réunion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Gloire à Dieu! Gloire! C'est vrai, frère. Je sais que c'est ma nature. Alléluia! À moins que votre nature n'ait été changée, vous écouterez toujours le gloussement de la vieille poule. Mais lorsque vous sentez l'eau, si vous êtes un canard, vous avez fini d'être un oiseau, parce que vous vous dirigez vers l'eau. Alléluia! Josué lui dit, « Ah, nous pouvons réussir !» Josué lui dit, « Nous pouvons le faire !» Caleb dit, « Nous pouvons le faire !» Comment savez-vous que nous pouvons le faire? Il dit, « Parce que Dieu l'a dit, et nous allons traverser, nous allons réussir, nous allons le faire !» Et aussitôt ils partirent, ils s'élancèrent vers le pays, et ils obtinrent l'évidence du Saint-Esprit, et ils revinrent pour le prouver. Le pays était bon, il y poussait de bons raisins. Je suis heureux de cela, n'êtes-vous pas heureux? Oh là là, mangez-les simplement et salivez-les comme un cheval mange du trèfle, c'est juste. Oui, monsieur, vous passerez simplement un bon moment, prenez-y plaisir. Qu'ai-je à me soucier de ce que le monde dit? Je n'ai rien à faire avec cela. Le Dieu même qui m'a suscité à sauver mon âme et m'a envoyé tout autour d'ici pour prier pour des rois et ainsi de suite, tout autour du pays. C'est ce bon Saint-Esprit à l'ancienne mode qu'il a fait. Je n'ai jamais eu honte de cela. J'ai dit dans des palais de rois, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est vrai, ils ont faim eux aussi. Ils ont faim et soif. Regardez donc ceci. Ils en sont arrivés à murmurer et en vinrent à se plaindre. Leur approvisionnement d'eau était coupé. Maintenant, dépêchons-nous. Quelle heure est-il? Oh, dites, je suis désolé, je suis en retard, excusez-moi de prêcher trop longtemps. Oh, je n'ai pas encore donné mon enseignement, n'est-ce pas? Mais juste une minute, j'arriverai à ma leçon dans un moment. Non, je vous faisais simplement marcher, restez bien tranquille, prenons juste quelques paroles ici et je voudrais dire quelque chose. Le cinquième verset du 21e chapitre maintenant, écoutez très attentivement. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte dans ce désert où il n'y a point d'eau et nos âmes sont dégoûtées de cette misérable nourriture? Après avoir été nourris par la bonne nourriture d'anges et autre chose, ils dirent, « Oh, nous sommes fatigués de cela, nous voudrions de l'ail et une citrouille. » Ils voulaient des bonnes vieilles potées de viande d'Égypte. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens. Vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, et nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents brûlants. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Oh, permettez-moi d'en venir là, cette petite chose-là avant le service de demain soir, le serpent d'airain. Comme hier soir, le rocher frappé, comme nous avons terminé par le rocher frappé, le serpent d'airain était Jésus-Christ. Vous dites un serpent? Oui, le serpent représentait le péché déjà jugé. Dieu a jugé le serpent dans le jardin d'Éden, dans le 3e chapitre de la Genèse et le 14e verset. Dieu a déjà prononcé le jugement sur le serpent. Oh, il était beau, il marchait debout, et était le plus rusé de toutes les bêtes des champs. Mais Dieu le jugea, et le fit marcher sur son ventre pour le reste de ses jours. Sur son ventre, il était jugé, et Christ était nos péchés jugés. Amen. Le voyez-vous? C'est beau, mon péché, vos péchés. Nous devrions en toute justice aller en enfer et être punis pour nos péchés. Mais Christ prit notre place. Le serpent, c'est pour cela qu'il représentait Christ. L'airain, le serpent était fait en airain. L'airain signifiait jugement divin. Maintenant, le serpent était le péché déjà jugé. Et l'airain signifiait jugement divin, comme l'autel d'airain. L'autel était fait d'airain qui brûlait les corps du sacrifice. Vous le trouverez donc dans le 17e chapitre, vous qui inscrivez les références des Écritures. Maintenant, ils prirent la bête, puis ils la lavèrent, un type parfait, le baptême. Ils la firent entrer, posèrent leurs mains dessus, confessèrent leurs péchés, coupèrent la gorge, le sang était versé, la viande brûlait, il y avait le sang sur le bloc de sacrifice, sur l'autel, l'autel d'airain, où les péchés étaient répudiés, où le Dieu juste demandait une entière séparation, et le jugement divin de Dieu avec le feu consumait le sacrifice pour le péché. Alléluia! Le jugement divin de Dieu était sur Jésus-Christ. Regardez, le jugement divin à nouveau dans les jours d'Élie montre que c'est le jugement divin. Élie, il vint un temps où il n'y avait rien, les gens s'étaient éloignés de Dieu, et Élie alla sur la montagne et il pria. Il vint devant le roi et dit, « Même la rosée ne tombera pas des cieux jusqu'à ce que je l'appelle. » Et pendant 3 ans et 6 mois, la rosée ne tomba vraiment pas sur la terre. Et lorsqu'on en était arrivé à ce point, Élie dit, « Prouvons qui est Dieu, le Dieu ardent. Notre Dieu est un feu dévorant. C'est ce Dieu qui répondra par le feu. C'est ce que je dis ce soir, c'est ce Dieu qui répondra par le feu. Le Saint-Esprit est le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Maintenant ils mirent leur, regardez, il monta après qu'ils eussent fait descendre le feu du ciel et ainsi de suite, et qu'il eût consumé le sacrifice, ils levèrent les yeux vers le ciel, et celui-ci ressemblait à de l'airain. Qu'était-ce? Le jugement divin sur toute la nation. Et mon frère, ma sœur, si vous regardez autour de vous aujourd'hui, vous verrez à nouveau la couleur de l'airain. Le jugement divin vient sur une nation. Le jugement, le serpent ardent des serpents ardents avec le jugement divin là-bas. Maintenant, regardez, il éleva ce bâton sur lequel il y avait le serpent fait en airain. Et quiconque regardait ce serpent était guéri de ses maladies. Quelle belle image de Jésus-Christ ce soir. Il a dit comme Moïse, de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Le voici maintenant, saisissez-le, si vous êtes malade, vous découvrirez ce qui vous guérira. Comme Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pour la même raison, en une raison composée, il était blessé pour nos péchés, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ils murmuraient contre Dieu et contre Moïse et furent mordus par des serpents. Le serpent fut utilisé pour une double application. La première était de pardonner leurs péchés et ensuite de guérir leur maladie. Et Jésus a été élevé, ce qui devait pouvoir pardonner notre péché et guérir notre maladie. Ensuite, en continuant, après cela vient Balaam, le prophète mercenaire. Il descend pour arrêter Israël. Oh là là! Nous aborderons cela demain soir. Comment ce gaillard et une mule muette a dû lui parler et le réprimander? Un prédicateur en dehors de la volonté de Dieu, avec l'esprit dirigé vers l'argent, il est allé là-bas et une mule devait le réprimander. Là-bas, une mule muette. Si Dieu peut parler par une mule muette, alors bien sûr qu'il le peut par un homme. Oui, monsieur. Regardez le pauvre vieux Moïse là, après tout ce temps. Je voudrais vous montrer ce qu'est un homme devant Dieu, comment Corée et tous ceux. Remarquez quand Dieu a dit à Moïse, « Sors d'ici, Moïse, je vais détruire tous ces hommes et faire de toi une nation puissante. » Et Moïse se jeta devant Dieu, il se mit dans la brèche et dit, « Dieu, prends-moi !» Et Dieu ne pouvait pas contrarier cet homme. Quel puissant saint devant Dieu! Regardez donc cela. Regardez le vieil Ésaïe, il monte et va dire au prophète Ézéchias, « Donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Ainsi dit le Seigneur. » Comme il était gênant de revenir quelques heures après, le Saint-Esprit l'avait rencontré, parce qu'Ézéchias avait tourné son visage contre le mur et pleuré amèrement et dit, « Éternel, Je te supplie de me prendre en considération. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur, et les larmes coulaient le long de ses joues. Dieu avait déjà scellé son destin, mais la prière changea les choses. Il dit au prophète, « Retourne et dis-lui ce qu'il en est. » Regardez quel guerrier était Moïse. Dans ses dernières heures, il est allé par là avec cet affreux caractère colérique et finalement se glorifia lui-même au lieu de glorifier Dieu. Et Dieu n'allait pas lui permettre. Bien sûr, le tout était une préfiguration. Tout comme les organisations d'aujourd'hui, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes et tous les autres, ils se glorifient eux-mêmes. Il y a quelques jours, une des plus grandes églises, simplement parce qu'il ne pouvait pas être le seul canard dans la mare, il rejette du pouce une réunion comme cela. Je dis, je n'ai absolument pas besoin de votre coopération. Où sont les aigles? Car où est le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et c'était vrai, oui monsieur. Dites seulement la vérité, Dieu prendra soin du reste. Et les voilà qui disaient, « Oh, nous sommes les plus importants. » Je dis, peu importe ce que vous êtes, Dieu est le plus important dans nos vies. C'est juste. C'est Dieu qui est requis, et non pas ce que dit l'Église. Et l'Église, chacun d'entre eux, n'importe quel historien ici qui veut examiner cette chose, il n'y a jamais eu une Église qui soit une fois tombée et qui se soit relevée. Dieu les laisse à l'écart. Ils ne se sont jamais, les luthériens sont tombés, les méthodistes sont tombés, les presbytériens, les baptistes tout le long, et les pentecôtistes aussi. Dieu les rejette simplement en les mettant à l'écart. Et si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, écoutez ceci, et je le dis avec l'inspiration, pas exactement maintenant, mais à cause de ce qui a précédé ceci, c'est qu'il n'y aura pas une seule organisation représentée de ce que je veux dire, l'organisation entière, à l'intérieur du royaume de Dieu, mais Dieu fera sortir de chacune d'entre elles l'élite de la moisson, la remplira de l'esprit et l'amènera dans la gloire. C'est vrai. La Bible prédit que le dernier âge de l'Église est l'âge de l'Église de Laodicée qui est tiède. Et c'est là, et pas plus loin, que l'Église en est arrivée aujourd'hui. C'est juste. Ils en sont arrivés peut-être à l'endroit de pouvoir frapper dans leurs mains un petit peu et faire un peu de bruit et sauter, donner des coups de pied dans les meubles un moment. Mais lorsqu'il s'agit d'une réelle vie vécue, pure, sainte, non adultérée, sanctifiée, ils en sont aussi loin que la nuit et le jour. C'est juste. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une mort à soi-même, à l'ancienne mode, mon frère, où il s'agit non de retourner à l'autel, et puis la chose passe, et retourner à l'autel à nouveau, et encore retourner à l'autel. Allez là-bas et restez-y jusqu'à ce que vous soyez morts. Et alors un homme mort ne connaît rien des choses du monde. Alléluia. Je ne repars pas sur ceci à nouveau, mais regardez, frère, laissez-moi vous dire. Dieu, après avoir eu son pauvre vieux serviteur Moïse, quelqu'un m'a dit une fois, je vous dis cela, cela montre Dieu, si vous l'appelez Dieu. Je dis, il a abandonné son serviteur à son sort. Après, la vie de Moïse était par cycle de 40. Il a été appelé à 40 ans et fut refusé par ses frères. Il partit dans le désert et garda des moutons pendant 40 ans. Lorsqu'il avait 80 ans, Dieu l'envoya délivrer Israël d'Égypte. Et lorsqu'il fut près de la terre promise, il avait 120 ans. Il avait la démarche d'un jeune homme et sa vue ne baissa pas. C'est vrai, à 120 ans. Mais lorsqu'il se glorifia là-bas, au lieu de glorifier Dieu, devant ce rocher, lorsque Dieu lui parla, lui dit, « Va, parle au rocher, ne le frappe pas, parle-lui. » Le rocher a été frappé une seule fois, et Moïse, avec son caractère colérique, tout excité, courut là-bas et frappa le rocher, il ne donna pas d'eau. Il le frappa à nouveau, il donna de l'eau. Il dit, « Vous, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Ainsi parla-t-il. Et cela fit jaillir des eaux, car Dieu devait écouter ce prophète parce qu'il l'avait revêtu de cette puissance. Et cela brisa tout le programme de la Bible de Dieu. Christ a été frappé une seule fois. Nous parlons au rocher maintenant, et il donne ses eaux, voyez-vous. Il a déjà été frappé. Parlez-lui simplement, et il donne ses eaux. Maintenant, je le vois ce matin-là. Oh, lorsque je pense à cette image, mon cœur s'arrête presque en moi. Je vois Moïse. Il savait. Dieu dit, « Moïse, dis-leur à tous adieu, à ta congrégation. Je vais t'appeler un peu plus haut aujourd'hui. Je vois le vieux Moïse se tenant là avec cette longue barbe blanche et ses cheveux qui descendent sur son visage, ses vieux yeux obscurcis par les larmes, pendant qu'il regardait son auditoire. Comment il était tombé sur le, comme ils avaient murmuré et comment ils s'étaient portés garants à leur égard. Il les regarda tous. Il commença à gravir la montagne. Il parvint sur la montagne et se retourna. Il commença à faire au revoir de la main. Il gravit jusqu'à parvenir droit au sommet de la montagne. C'était au mois d'avril. Il se tint là. Il regarda de l'autre côté en terre promise. Oh, combien il voulait aller là-bas. Oh là là, son pauvre cœur se brisait. Il voulait passer en terre promise avec ce groupe de Juifs qu'il avait conduit et pour lesquels il s'était tenu dans la brèche. Et le voilà donc qui regardait de ce côté-là, et les larmes coulaient le long de ses joues. Il se retourna et fit à nouveau un signe de main au peuple pour leur dire au revoir, leur vieux pasteur. Il s'en allait, il leur fit signe comme cela. Il regarda de nouveau de l'autre côté. Si seulement je pouvais me tenir où se tenait Moïse et parcourir de mes yeux le paysage, Dieu voulant, durant les quelques prochains mois, je veux me tenir sur la montagne là-bas et regarder du côté où ils ont traversé. J'ai vu un film l'autre jour où quelques-uns des frères, environ 40 de mes frères des campagnes d'évangélisation, sont allés par là, ils ont pris un film de cela. Lorsqu'ils traversèrent là, ces hommes criant et poussant des cris auraient bien arraché tous les buissons de la berge où les enfants d'Israël s'étaient dirigés, où Jésus fut baptisé. Et chacun de ces prédicateurs sauta dans l'eau avec ses vêtements et tout, et ils se sont rebaptisés l'un l'autre, chacun d'entre eux. Oh mon frère, il y a quelque chose là-bas qui bouge et remue. Nous vivons, ils montèrent dans une voiture, ils ont roulé un peu et ils ont dit, en passant par l'itinéraire que les enfants d'Israël avaient suivi, comme le vieux Buddy Robinson dit, arrêtez cette machine et vite. Il sortit et courut d'un côté de l'autre et courut, criant autour de cet endroit, hurlant, gloire à Dieu, alléluia. Il remonta aussitôt et dit, vous pouvez continuer, c'est juste. Il avait un tel bon moment, c'est sûr. Si je pouvais me tenir où se tenait Moïse, sur ce rocher, regardant dans la terre promise, il voulait aller. Et il regarda de nouveau la congrégation, leur dit au revoir en signe de main à nouveau, les larmes coulaient sur sa longue barbe. Son heure arrivait, ses manches, elles coulaient sur ses manches ici, son pouls a commencé à battre plus fort en remontant ses manches, un vieux vétéran. Je peux vous dire maintenant même, frère, ne pensez pas que je dirais ceci à la façon baptiste pendant un moment, mais frère, il n'était pas perdu. Non, il ne l'était pas. Dieu n'abandonnera pas son serviteur. Alors les manches commencèrent à monter comme cela et la première chose, vous savez, il fut pris. Le pouls faiblissant, ses yeux commençant à s'obscurcir alors qu'il regardait de l'autre côté dans ce pays, comme il voulait passer de l'autre côté. Oh là là, son cœur était en train de se briser. Et juste au moment où il était prêt à quitter cette vie, il arriva qu'il regarda justement, et debout à son côté se tenait le rocher. Dieu est donc simplement là, c'est tout, il monta sur le rocher. Les anges sont venus et l'ont emporté, et 800 ans plus tard, il se tenait de l'autre côté, en terre promise, à côté d'Élie parlant à Jésus. Il n'abandonne pas les siens. Un de ces jours, je devrais arriver à la fin de la route. J'ai 43 ans maintenant, je commence à être plutôt démoli, j'ai prêché 20 ans, j'ai marché dans l'eau et la glace brisée, je me suis tenu là, j'ai baptisé jusqu'à être presque gelé. J'ai dû me priver, je suis allé sans le nécessaire, dans les jungles et tout cela, avec les maladies et tout le reste qui rôdait. Je ne sais pas combien de temps je resterai encore. Mais si je vis pour voir plus loin que maintenant, peut-être, quand je deviendrai un vieil homme, si Jésus tarde, je me tiendrai probablement avec le peu de cheveux que j'ai. Ils pendront. Toute ma famille attrape une paralysie lorsqu'ils deviennent vieux. Ils ont la tremblotte. Quand je me serai frayé un chemin en combattant dans chaque bataille, que tous mes amis et le reste seront partis, et que je me tiendrai là et entendrai les flots impétueux passant par là, que je tremblerai sur mon bâton comme cela, je veux prendre cette vieille épée, la remettre au fourreau de l'éternité, enlever mon bouclier et le déposer, lever la main, alléluia, et dire, Seigneur, envoie-moi le canot de sauvetage. Je viendrai de l'autre côté ce matin. Je vais traverser le fleuve. Il ne m'abandonnera pas alors. Et tant que je suis ici, tant qu'il fait jour, je prêcherai, prierai et solliciterai, chanterai, ferai tout ce que je peux pour le royaume de Dieu. Lorsque mon âme commencera à quitter ce corps et que je regarderai en arrière et verrai mes empreintes de pas, je veux qu'elles soient au bon endroit où la séparation laisse derrière nous des empreintes de pas sur les sables du temps. Inclinons nos têtes. Teddy, va au piano un moment. Notre Père céleste, ô combien nous sommes heureux pour ces glorieux moments de réjouissance. Je pense que je sors un peu de moi-même, Seigneur. C'est simplement le Saint-Esprit qui baptise simplement mon âme. Je n'y peux rien. Quelque chose se saisit simplement de moi. Je suis si reconnaissant, Seigneur, d'avoir pu faire nettoyer toutes les casseroles et les gouttières afin que le Saint-Esprit puisse venir. Enlever le bouchon des tuyaux afin que les eaux du salut puissent se déverser au moment où Dieu le veut. Prier jusqu'à ce que cela parte. Comme Élie parla à Josaphat et dit, « Creuse des fossés, enlève toutes les pierres, tous les bâtons et les souches. Il y a de l'eau qui va venir. » Merci Seigneur, tu as été ici ce soir. Je pense au vieux prophète Moïse. Dieu bénit sa vaillante âme. Comme il se tenait là sur le mont, regardant vers la terre promise, nous nous tenons ainsi ce soir, en regardant de ce côté-là, Seigneur. La seule chose que je te demande pour moi-même est que tu permettes que ce rocher soit présent lorsque je m'en irai. Dieu, cela sera très bien pour moi. Et tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie, Seigneur, si je peux simplement ramper jusqu'à tes pieds sacrés et les toucher une fois, les caresser avec ma main indigne, cela me récompensera un million de fois. Nous savons tous que nous devons prendre cette route. Quelques-uns d'entre eux pourraient devoir le faire dans quelques heures. Je ne sais pas. Toi, tu sais. Pendant que nous sommes ici ce soir, Père, et que le Saint-Esprit est encore présent, il s'est trouvé ici, bas, bénissant ton peuple. Père, je te demande quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui ne soit pas sauvé, Seigneur, qui ne te connaisse pas comme son sauveur personnel, ne sache pas comment il se tient devant toi? Je vais te demander, Seigneur, si tu veux simplement, pas que ces gens m'entendent maintenant, mais je vais te demander si tu veux simplement parler à leur cœur et leur donner du courage ce soir. Cela pourrait être le dernier appel. Comment savons-nous? Pourquoi courir un risque alors que toute l'éternité repose sur ceci? S'il y en a, Seigneur, ou un rebelle en dehors du chemin, qui peut-être monte sur la colline pour regarder de l'autre côté dans le pays, et ensuite être rejeté, Dieu, je prie que leur rocher puisse être avec eux, aide-nous maintenant et bénis cet auditoire pendant que nous attendons. Maintenant, s'il y a un homme ou une femme ici, un garçon ou une fille, avec vos têtes inclinées, et ne levez pas la tête pour regarder, s'il vous plaît. Les gens sont très timides parfois, susceptibles envers ces façons de faire, mais ce sont des hommes et des femmes. J'ai déblayé beaucoup de terrain en ces 43 années. Il y a à peine quelques jours, j'étais le petit garçon d'autrefois courant par ici, jouant aux billes avec vous. Oh Dieu, je suis en train d'échouer, je peux le sentir. J'ai essayé pendant 20 ans d'essayer de vous introduire quelque chose. Jeffersonville, pourquoi rejettes-tu cela? Alors que Dieu l'a authentifié, a envoyé son ange, pris une photo de cette chose. Elle est connue tout autour du monde. Comment pouvez-vous penser que c'était une espèce d'imitation de la foi? Êtes-vous sans Dieu ce soir? En fait, vous auriez aimé le connaître. Vous savez que vous voulez cette sorte de salut avant de mourir. Ici, il n'y a pas longtemps, dans cette même ville, il y avait une jeune fille appartenant à une certaine église dans cette ville. Elle pensait qu'elle était en ordre. Son pasteur lui avait dit qu'elle était en ordre. Elle se moquait d'une petite fille qui venait à l'église parce qu'elle ne voulait pas aller au cinéma. Elle dit, « Ton pasteur est étroit d'esprit. » La petite fille dit, « C'est bien ainsi. » Après quelque temps, elle sortit avec de mauvaises fréquentations. Elle eut une maladie et laissa aller les choses trop loin. Le docteur, un certain docteur de cette ville, alla l'examiner. il découvrit qu'elle était dévorée par une maladie vénérienne. Elle mourut juste après cela. Elle était une enseignante de l'école du dimanche dans cette grande église. Ils étaient tous autour d'elle, oui, pour la voir aller au ciel. Et juste vers ce moment-là, sa classe de l'école du dimanche était là. Son pasteur marchait dans le hall, fumant une cigarette. Et lorsqu'il fut à peu près temps pour elle de partir, que les anges viennent la chercher, elle se leva et elle dit, « Où est le pasteur ?» Ils allèrent le chercher. Elle dit, « Vous, trompeurs d'hommes !» Elle dit, « Pourquoi m'avez-vous laissé arriver à cet état? Je suis perdue. » Ne vous faites pas de soucis. Adam savait qu'il avait des feuilles de figuier sur lui lorsqu'il vint devant Dieu. Tout était bien lorsque Dieu n'était pas proche. Elle dit, « Pourquoi m'avez-vous laissé aller comme cela ?» Elle dit, « Où est cette petite fille du tabernacle là-bas ?»« Oh, elle !» Il dit, « Vous êtes hystérique. Je vais appeler le docteur pour qu'il vous donne un calmant. » Elle dit, « Vous trompez les gens. Je suis perdue et mon âme ira en enfer à cause de vous. » Elle courba la tête. Et un de mes chers amis qui travaille au garage ici maintenant, travaillait à l'entreprise des pompes funèbres. On alla lui mettre le fluide dans le corps, et lui injectait toujours. Il continuait à sentir le fluide, et il ne pouvait pas remplir ses veines. Ils retirèrent ses vêtements et regardèrent. Il y avait un trou dans son corps, là aussi gros qu'un poing, ou presque. La maladie vénérienne l'avait rongé là. Oh oui! Elle allait passer de bons moments, cette petite fille était une sainte comédienne ou une fanatique. Ne sous-estimez rien, mes amis. Le connaissez-vous ce soir? Êtes-vous réellement sauvé? Je vous le demande au nom de Jésus. S'il y a un homme ou une femme, un garçon ou une fille ici ce soir, qui ne soit pas sauvé, né de nouveau, voudriez-vous lever la main et dire, « Priez pour moi, frère Branham. » Maintenant, gardons tous la tête inclinée. Oui, Dieu vous bénisse, jeune dame, Dieu vous bénisse, et vous, Dieu vous bénisse, et vous, tout au fond, oui, Dieu bénisse votre sincérité. Jeune homme, je vous vois, merveilleux, 20 ou 30 mains dans ce petit bâtiment non régénéré. Le Saint-Esprit était ici ce soir, il vous a parlé, il est ici maintenant. Vous avez besoin de lui. Pourquoi ne venez-vous pas? Ne voulez-vous pas venir à l'autel pour vous agenouiller et dire, « Seigneur Dieu, je vais te recevoir comme mon sauveur personnel ce soir. Je vais t'accepter maintenant et je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je le veux. Peu m'importe ce que le monde va dire, je vais le recevoir maintenant. Tu me l'as promis. » Et écoutez, chacun d'entre vous ici qui a levé la main, vous avez écouté ces réunions. Personne dans ce bâtiment ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire. Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui produit ce désir? Dieu est ici. Dieu est ici. Écoute, mon ami, si Dieu veut entendre ma prière comme homme, si tu crois que je suis son prophète, et tu as lu les journaux et les revues, les livres et les auteurs, et tu revois ces photos qu'on vend derrière la porte le soir de cet ange de Dieu, flamboyant, le même au sujet duquel je lis ici dans le buisson ardent, et tu crois que je suis un serviteur de Dieu, et tu crois qu'il entendra ma prière, et entendra la prière si tu pries, voudrais-tu te lever devant ta chaise? Si tu as une telle réelle conviction, viens ici, et tiens-toi à cet autel, et dis, frère Branham, s'il ouvre les yeux des aveugles, il pardonnera mes propres péchés. Dieu vous bénisse, jeune homme, de ce que vous vous avanciez en premier. Qui va suivre ce jeune homme vers l'autel? Je veux que les prédicateurs de ce bâtiment viennent, ceux qui sont dans le bâtiment, venez ici à l'autel juste une minute, chaque prédicateur. Venez, jeune dame, Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre maintenant? Je veux que les prédicateurs viennent ici, en haut de cette estrade, si vous voulez. Pécheurs, amis, montez directement, jeune homme, Dieu vous bénisse, montez directement et agenouillez-vous là. Dieu vous bénisse, monsieur, venez donc, Dieu vous bénisse, madame, Dieu vous bénisse, que quelqu'un d'autre s'avance ici jusqu'à l'autel et s'agenouille. Êtes-vous sans Dieu, sans Christ ce soir, dans un monde complètement étranger à Dieu? Oh, vous dites, il se fait un peu tard et les miens m'attendent. Une petite fille infirme s'avance, honte à vous! Jean en bonne santé, Êtes-vous étranger pour Dieu ce soir, sans Dieu, sans Christ, mourant dans le péché et la honte, ne viendrez-vous pas? Serez-vous assez homme ou femme avec assez de décence pour vous lever et dire, « Frère Branham, je monte là, je veux vous serrer la main et m'agenouiller ici à l'autel. Je veux accepter Jésus-Christ comme mon sauveur à l'instant même. » Viendrez-vous? Toutes ces mains levées, voulez-vous me dire que vous savez que vous êtes ici dans la présence de Dieu, que vous savez que vous êtes dans cette condition, et vous refusez toujours de venir à l'autel? Qu'en est-il alors si votre cœur s'arrête ce soir lorsque vous rentrez à la maison? Qu'en est-il si vous avez un accident et si vous vous trouvez dans un hôpital dans une heure, que le sang quitte votre corps et que vous crierez, mais personne pour prier? Dieu dit, si vous me négligez maintenant, je rirai de vos malheurs. Ne voulez-vous pas venir? Vraiment? Voulez-vous dire que vous avez été assez convaincu que le Saint-Esprit est ici pour lever la main, mais que vous ne viendrez pas à l'autel? Quel peut donc bien être l'obstacle qui vous arrête? Dieu vous bénisse, monsieur. J'aperçois que vous êtes un homme malade aussi. C'est pourquoi vous vous avancez, n'est-ce pas? Vous souffrez de tuberculose, n'est-ce pas? Il va vous guérir ici, à l'autel ce soir. Vous m'êtes étranger, mais je sais ce que vous êtes et qui vous êtes. Le Saint-Esprit vient de se déverser d'un coup dans cette réunion, et cet ange de Dieu se tient sur l'estrade. Vous avez été aux réunions, vous savez ce que ceci signifie, n'est-ce pas? Cet homme sera guéri ce soir. Dieu a parlé à l'instant même où il s'est levé. Dieu te bénisse, mon garçon, avance vite. Il vient pleurant, les yeux pleins de larmes. Dieu vous bénisse, sœur. Avancez tout de suite. Dieu vous bénisse. Venez, agenouillez-vous tout autour de l'autel. Ne viendrez-vous pas? Agneau de Dieu, je viens, tel que je. Dieu te bénisse, petit garçon. C'est merveilleux. Quelqu'un d'autre? Quelques-uns parmi vous, les jeunes gens, au fond maintenant? Il y a longtemps que vous avez remis cela plus tard. Voici le moment, l'heure est venue. Que quelqu'un aide la maman avec ce bébé là-bas. Quelqu'un, s'il vous plaît, elle veut venir à l'autel. Son mari est déjà ici. Que quelqu'un aide le bébé ou tienne le bébé. Laissez venir la maman. Dieu vous bénisse. Avancez, maman, c'est juste. Ils prendront soin de votre petit. Venez, devenez une réelle maman pour Jésus-Christ et pour vos enfants. Dieu vous bénisse, sœur, c'est bien. Dieu vous bénisse, madame. C'est comme cela qu'il faut venir et dominer votre nervosité. Elle a eu un certain trouble nerveux et des habitudes nerveuses et ainsi de suite. Cela vous quittera pendant que vous vous tenez là, maintenant. L'ange du Seigneur se tient sur cette estrade même. Si vous croyez que je suis son prophète, obéissez et faites ce que je vous dis maintenant et vous verrez si ce n'est pas vrai. Ne cherchant nul remède en moi, ton sang lave, Dieu te bénisse, mon garçon. Âme impure, agneau de, ô Dieu vous bénisse, maman, je viens, je viens. Est-ce que quelqu'un d'autre parmi vous voudrait venir ici? Le Saint-Esprit me dit qu'il y a plusieurs autres personnes ici. Soyez honnêtes avec Dieu, n'est-ce pas? Que pouvez-vous perdre de monter à cet autel et de prier un peu? Vous allez prier quelque part. Si vous ne priez pas ici, vous prierez en enfer. L'homme riche y leva les yeux. Maintenant, si vous croyez la parole de Dieu et croyez que je dis la vérité, si Dieu a confirmé la vérité, il y a des hommes et des femmes ici qui devraient être à cet autel à l'instant même. Le Saint-Esprit parle, disant qu'il en est ainsi. Venez, Dieu vous bénisse, sœur. Vous-même êtes une de ces personnes. Avancez, Dieu vous bénisse. Venez maintenant, où que vous soyez, jeunes et vieux, venez. Levons-nous, vous tous qui êtes assis, levez-vous, alors que nous chantons un couplet de ce chant maintenant. Avancez donc, élargissez le groupe. Prenons notre chemin vers l'autel. Vous dites que vous appartenez à l'Église, ce n'est pas assez. Si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume. Avancez donc. Tel que tout le monde, ne voulez-vous pas sortir de votre place? Ne voulez-vous pas longer l'aile latérale maintenant? Venez ici, et rencontrez-moi à l'autel.